VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Conakry, 18h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. La démission du conseiller à la sécurité nationale, le général Michael Flynn, plonge la Maison Blanche en crise et soulève des questions sur les relations avec Moscou. Le point avec Eric Manirakiza.
Michael Flynn a tiré sa révérence moins d'un mois après sa prise de fonction. À l'origine, ses discussions téléphoniques avec l'ambassadeur de Russie, 3 semaines avant l'investiture de Donald Trump. L'administration Obama avait pris des sanctions contre la Russie pour son ingérence présumée dans l'élection américaine. Le général Flynn aurait confié à son interlocuteur que les relations allaient s'améliorer après la prise du pouvoir de Trump le 20 janvier. Monsieur Flynn a été contraint de démissionner pour avoir fourni des informations incomplètes au vice-président Mike Pence. Mais selon Julian Zelizer, enseignant à l'université de Princeton, cette démission pourrait déclencher de nouvelles investigations, notamment sur la nature des relations entre la Russie et Donald Trump, qui a multiplié pendant sa campagne les propos flatteurs pour Vladimir Poutine. En revanche, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué qu'il s'agit d'une affaire interne aux États-Unis.
Selon l'AFP, l'élite politique russe estime que cette démission est un coup dur porté aux relations russo-américaines. C'est un signal négatif pour le rétablissement du dialogue russo-américain au moment où les relations entre Moscou et Washington sont au plus bas depuis la fin de la guerre froide, a affirmé Leonid Slutsky, président de la Commission pour les affaires étrangères à la Douma, la chambre basse du Parlement russe, cité par l'agence publique d'information russe RIA Novosti. Pour sa part, le chef de la Commission pour les affaires étrangères au Conseil de la Fédération, la chambre haute russe, Konstantin Kosachev, fait état de pression sur le président américain Donald Trump à Washington.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
On passe à l'Afrique maintenant. Retournement en Gambie. Le pays restera finalement membre de la Cour pénale internationale après l'annonce en novembre dernier du retrait de la CPI par le régime de l'ex-président Yahya Jammeh. Les détails avec Jacques Aristide.
C'était une promesse de campagne d'Adama Barrow pour la présidentielle du 1er décembre. Eh bien, c'est fait. Le gouvernement gambien a informé l'ONU de sa décision de réintégrer la CPI, dont la procureure est la gambienne Fatou Bensouda. L'ancien président Jammeh accusait cette juridiction internationale de persécution envers les dirigeants africains. Mais pour les nouvelles autorités, la Gambie se considère comme un État parti du traité de Rome et continuera à remplir ses obligations, notamment dans la promotion des droits humains et le respect de l'état de droit. Ce revirement est également un pied de nez à la récente décision de l'Union africaine de soutenir le retrait de ses membres de la CPI, comme l'ont déjà fait l'Afrique du Sud et le Burundi. La Gambie veut aussi revenir au sein du Commonwealth, d'après Boris Johnson, le ministre britannique des Affaires étrangères, qui rencontre ce mardi à Banjul le président Barrow. La Gambie s'était retirée du Commonwealth en 2013, l'accusant d'être un prolongement du colonialisme. Pour Boris Johnson, la réintégration de la Gambie se fera dans les prochains mois.
Crise migratoire, près de 200 migrants nigériens qui étaient détenus dans les centres de rétention à Tripoli, la capitale de la Libye, ont été rapatriés aujourd'hui dans leur pays d'origine. Les migrants ont été rapatriés par avion depuis l'aéroport de Mitiga à l'est de Tripoli, en coordination avec l'OIM, l'Organisation internationale de la migration. Pour plus de détails, Claire-Maurice Gibourg a joint le chef de mission Niger de l'OIM, Giuseppe Loprete.
Les flux de retour des migrants de la Libye n'étaient jamais arrêtés. Donc, depuis des années, les migrants reviennent. Dernièrement, ils reviennent plutôt par voie terrestre. Donc, ils arrivent à revenir de ces bagues, surtout les migrants qui sont coincés sur le territoire libyen et qui ne peuvent pas continuer vers le nord. Ils cherchent de revenir, ils payent les passeurs ou les personnes qui sont en train de les retenir en détention pour revenir sur le Niger et arriver quand même à Agadez et après dans leur pays d'origine. Il y a parfois des vols, des vols de Tripoli ou d'autres, il y a eu un vol de Seba aussi, donc dans le sud de la Libye, vers Niamey. Les vols sont normalement gérés directement par la Libye et le Niger.
Comment se passe leur prise en charge une fois qu'ils reviennent au Niger?
L'OIM a à ce moment 5 centres de transit, d'accueil et de transit, 3 dans la région d'Agadez et 2 à Niamey. C'est dans les centres qui sont des centres ouverts et volontaires, donc les migrants acceptent de rester chez nous. Et du moment que les migrants acceptent, on commence à préparer leur retour vers les pays d'origine. Les migrants reçoivent l'hébergement, la nourriture, il y a des psychologues dans les centres, il y a des médecins. On travaille avec la Croix-Rouge nigérienne, par exemple, et d'autres partenaires pour les appuyer, COPI, une organisation ONG italienne. Et normalement, dans les 2-3 semaines, pas plus, les migrants peuvent, dès qu'on a les documents, les papiers de voyage, les migrants peuvent continuer vers les pays d'origine et c'est toujours, les transports est toujours pris en charge par l'OIM jusqu'à leur village d'origine. Donc non seulement Dakar, c'est dans le cas des migrants sénégalais, mais vers les villages d'origine. Donc voilà toute l'opération. Il y a des cas où les migrants doivent rester quelques mois, ce sont surtout les mineurs non accompagnés, parce que avant de quitter le pays, on a besoin de l'autorisation des juges, le juge des mineurs. Donc, pour faire tout ce processus, les migrants restent avec nous et sont assistés. Et dès qu'on a les laissez-passer, toutes les conditions sont remplies, ils rentrent chez eux, encore une fois, sur base volontaire et avec l'OIM.
Giuseppe Loprete, le chef de mission Niger de l'Organisation internationale de la migration.
VOA Afrique en direct de Washington.
En RDC, la police congolaise a donné l'assaut aujourd'hui au domicile du chef d'une secte séparatiste à Kinshasa. Des dizaines de policiers ont participé à cette attaque très tôt ce matin. Nemwanda Nsemi, le leader de Bundu Dia Congo, a réussi à échapper au coup de filet des forces de sécurité. La police le recherche. Plus de détails avec Idrissa Sedoudia.
L'assaut contre la résidence de Nemwanda Nsemi, prophète autoproclamé du Bundu Dia Congo, a débuté vers 4h30, soit 3h30 GMT. Nsemi, qui affirme avoir eu une révélation, a fondé le BDK, c'est-à-dire le Bundu Dia Congo, dans les années 1980, avec l'ambition de faire revivre le royaume précolonial du Congo qui couvrait une vaste partie de l'Afrique centrale. Au début du mois, au moins 8 de ses adeptes ont été tués dans des affrontement avec la police à Kimpissé, une ville de la province du Bas-Congo dans le sud-ouest du pays, habituellement épargnée par les violences qui marquent d'autres régions du pays. Des analystes notent que le refus de Joseph Kabila de quitter la présidence à l'expiration de son mandat en décembre dernier a conduit à un regain d'activité de multiples groupes armés.
Violence en Centrafrique, Paris se dit aujourd'hui préoccupé par les récents affrontements entre factions rivales de l'ex-rébellion Séléka dans la région d'Ipi et de Bambari, dans le centre de la RCA. Le gouvernement français condamne fermement ces violences et appelle l'ensemble des groupes armés à cesser les hostilités et à rejoindre le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement conduit par les autorités centrafricaines, a déclaré le Quai d'Orsay. Rappelons que samedi dernier, un hélicoptère de la MINUSCA, la mission onusienne en RCA, est intervenu pour stopper des éléments du FPRC, le Front populaire pour la renaissance de Centrafrique, qui attaquaient leurs rivaux de l'UPC et à leur rivaux de l'UPC à Ipi et avançaient vers la ville de Bambari. Le général Joseph Zoundeko, un des chefs influents du FPRC, a été tué lors de ce raid aérien samedi. Au Soudan du Sud, l'armée sud-soudanaise réagissant à la récente démission d'un influent général très critique à l'égard du gouvernement du président Salva Kiir a accusé le haut gradé d'avoir fui le pays pour échapper à des poursuites pour malversation. Mais dans sa lettre de démission datée du 11 février, le général Thomas Cyril Oswaka, ex-numéro 2 de la division logistique au sein de l'état-major sud-soudanais, reproche au président Kiir et à la SPLA, l'armée gouvernementale, d'avoir systématiquement torpillé un accord de paix signé en août 2015 pour mettre fin à la guerre civile. Et pour terminer, les États-Unis vont débloquer une aide supplémentaire de 25 millions de dollars en faveur de l'Ouganda pour aider ce pays à faire face à un afflux important de réfugiés. C'est ce qu'a annoncé ce mardi l'ambassadrice américaine à Kampala. L'Ouganda abrite plus d'un million de réfugiés, dont 700 000 qui ont fui la guerre civile au Soudan du Sud voisin depuis décembre 2013. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.